Amis de Radio Silence, bonjour. Parfois, il faut savoir garder le silence pour digérer tout ce que nous avons dit entre-temps. Là, ce n'est pas une émission africaine. Nous n'allons pas parler de l'Afrique. Malheureusement ou heureusement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Afrique? Pourquoi je ne parle pas beaucoup de l'Afrique? Parce que... L'Afrique subit le contre-coup de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on peut toujours parler de l'Afrique, ça va être intéressant, ça va plaire à tous ceux qui aiment bien qu'on décrive l'Afrique de façon très sinistre, mais au fond, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il faut s'intéresser à quelque chose de plus profond qui mine le monde actuellement, c'est la guerre. C'est la guerre et c'est surtout... Ce nouveau phénomène qui est apparu et qui est lancinant parce que, contrairement à ce qu'on croit, il détermine, il redéfinit la politique, c'est l'état de surveillance qui est devenu un art en soi, la surveillance généralisée de tous les citoyens du monde. Et là, avec le scandale de Facebook, hein, c'est un truc assez compliqué. Je ne vais pas tellement rentrer là-dedans parce que ça sent aussi le règlement de compte post-électoral avec la victoire de Trump que beaucoup de gens ne digèrent toujours pas. Mais en tout cas, une société privée, Analytica, aurait récupéré des données des usagers ou des utilisateurs de Facebook. Et à ces usagers-là, elle aura envoyé des... des sortes de pubs qui seraient pro-Trump de façon à influencer le vote en faveur de M. Trump. Je ne sais pas trop, c'est très compliqué cette histoire. Mais bon, c'est qui énerve les législateurs. Bon, encore que énerver les législateurs, vous allez voir que c'est ironique. C'est que une société privée peut entrer dans les données comme ça d'une autre société, en l'occurrence Facebook, retirer toutes les données privées des gens et puis s'en servir à des fins soit de propagande politique, soit autre, publicitaire notamment, ou commerciale. Ça fait tout ce qu'on appelle la concurrence illégale et dévoyée et détournée, qui n'est pas transparente, qui n'est pas juste, etc., comme si cela pouvait être juste. Alors, du coup... J'ai vu le Ron Paul Institute, un article très intéressant d'un enseignant qui qui pose le problème qui y a derrière, le véritable problème qui est la société de surveillance. La société de la surveillance généralisée et illégale. Illégale. Il essaie déjà de revenir sur un plan historique et de nous dire d'où vient ce projet-là. Alors, le projet vient de 1890, enfin, il commence en 1890, lorsque l'Amérique occupe les Philippines, et il est mis en place par le père de l'intelligence américaine, qui s'appelle alors Ralph Vandeman. Vandeman, ça me rappelle tout de suite ceux qui ont organisé et pensé l'apartheid en Afrique du Sud, le monde est petit. Donc c'est lui, ce monsieur, qui est considéré comme le père de l'intelligence américaine, qui a mis en place donc, le système aux Philippines. Ils ont expérimenté cela, ils ont vu que c'était bon, parce que là-bas, on contrôlait toute la population. Et de retour aux États-Unis en 1917, il a créé donc, la section de l'intelligence militaire, en Amérique, où il a mis en place toutes ces méthodes. Il a commencé à, comment je veux dire, il a transféré l'expérimentation qui a eu lieu donc, aux Philippines, en Amérique. Il a commencé cela comme cela, tout doucement. Oui, c'était pour un usage militaire, donc destiné à l'étranger. Et finalement, ça a évolué, comme toute chose. Et vous savez, après l'amour du pouvoir, ça a évolué vers le contrôle social des Américains. Et en 1952, le même organisme a changé de nom et est devenu la NSA, que célèbre, hein, que vous connaissez déjà. Et là, c'est devenu très sérieux parce qu'avec la NSA, l'institution, parce qu'on va parler d'institution, s'est donné des missions. L'une des missions était donc de surveiller tous les dissidents. Alors, quand on dit dissident, on pense à toutes les personnes jugées subversives. Hein, ça, c'est vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, donc vous serez jugé subversif et classé là-dedans, donc surveillé par la NSA de jour comme de nuit. Donc, les activistes, ceux qui protégeaient les civil rights, comme on dit, s'agit de protéger les libertés. Donc, vous voyez Martin Luther King par qui il était visé. Donc, tous ces leaders-là étaient dans le collimateur de la NSA. Et puis, tous ceux qui étaient contre la guerre, voilà, le Vietnam et tout cela, ils étaient fichés par la NSA, le FBI et la CIA, qui depuis travaillent main dans la main depuis l'année 1952 exactement. Et la surveillance qui était plus ou moins, enfin qui était réservée au domaine de la politique étrangère et qui était quelque chose qu'on mettait en œuvre pour les personnes dangereuses, est devenu quelque chose de tout à fait officiel, normal. On est revenu comme ça, on a réintégré la dictature et ça supposait aussi carrément d'infiltrer les organisations privées et ça supposait carrément qu'on rentre chez vous, comme ce qui se passe ici chez moi, j'ai mieux compris, et qu'on vole ce qu'on peut voler et qu'on prenne ce qu'on peut prendre. Tout cela est devenu plus ou moins officiel, quoique la justice n'a jamais pu être saisie pour cela. En 1970, déjà un lanceur d'alerte a dévoilé le poteau rose, et c'est un certain Zemmour Hersh. Et on s'est proposé en 1978 de faire quelque chose parce que, enfin, on s'est proposé déjà en 1970 de faire ce quelque chose. Et en 1978, on a pris un acte, vous savez, ils sont très forts dans les actes, les sénateurs américains et les hommes de loi, pour interdire cela. Malheureusement, ça n'a rien fait. Puisqu'en 2013, c'est Snowden qui révèle que alors aujourd'hui, c'est au quotidien que tous les Américains sont mis sous surveillance. Vous savez, tout ce qu'avant, c'était les câbles, comme ils disent, les telex et tout qui étaient lus. Maintenant, c'est tous vos emails. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, la révélation de Snowden. Toute la vie est affichée et vous ne pouvez pas. Vous pouvez ni revendiquer, ni vous plaindre, c'est ainsi. On a quand même essayé, alors c'est ça l'ironie du sort déjà, de dire que de s'étonner de ce qui se passe avec Facebook et Analytica, alors que les députés, enfin la House, ils viennent de voter une loi qui dit très bien qu'on pouvait surveiller tout ce qui représentait un danger pour la nation et sans passer par la justice. Donc, comment on va dire, peut-être qu'on prenne qui pourra, mais toujours est-il dit, on continue donc, alors on arrive aux conclusions. Là, c'est une émission qui diffère des autres. Bon, on ne va pas trop critiquer, et encore que c'est l'article qui critique, parce qu'il critique quelque chose qui est vraiment essentiel, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas. Pourquoi les présidents de la République aujourd'hui, les gouvernements ne font presque plus rien, ils calent même pas, ils sont pas obligés, il leur suffit de surveiller les gens, parce que la surveillance apporte la volonté de pouvoir. Et cette façon de dominer les gens comme ça prévaut sur tout le reste. Et quand vous êtes dominé sous torture, vous faites quoi? Vous subissez et vous la fermez. Donc, les conséquences de l'état de surveillance sont terribles en termes, donc, déjà de... Comment je vais dire ça? La conclusion, l'une des conclusions, c'est que l'auteur de ce livre, il a écrit un livre d'ailleurs, Tyrannie, la tyrannie est de retour au pays, c'est que au nom de ces interventions militaires là à l'extérieur qui prétendent qu'elles font cela pour que les Américains soient plus en sécurité. Donc au nom de la sécurité nationale et de la protection des libertés des Américains, en fait, ces guerres créent les conditions d'expérimentation d'un contrôle social qui revient par un effet boomerang frapper les Américains en Amérique. Et ça, c'est déstabilisant. Bon, moi, j'apprends rien, mais lorsque c'est dit comme ça, c'est vraiment choquant parce qu'on est là en plein mensonge, des gens qui vont pour voler et qui présentent cela comme étant la liberté qu'ils y sont en train d'exporter, comme la démocratie, mais qui en fait ne se contentent même pas de cela. Ils reviennent à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui vont dénoncer la supercherie et terroriser ces personnes et contrôler tout le monde de façon à ce que la liberté elle-même, telle qu'on l'entend, vous savez, vous pouvez déjà, ça suppose la liberté, ça suppose déjà que votre espace privé, si vous ne voulez pas, ne soit pas envahi, mais ça, si vous le dites, on dira que vous êtes ringard, parce que maintenant, vous savez, la mode, hein, c'est l'exhibitionnisme total. Donc, comment peut-on arriver à concilier des inconciliables, c'est-à-dire des dirigeants qui n'ont pas le même agenda que le peuple. Des dirigeants élus pourtant par le peuple, avec des mensonges, des promesses fallacieuses comme d'habitude. Quand ils font croire, ces dirigeants-là, ils font croire au peuple qu'ils interviennent à l'étranger parce qu'ils vont apporter, je vais dire, la civilisation, c'est déjà un mensonge. À la limite, ça passe. Mais quand ils reviennent de là-bas, forts de leur puissance et qu'ils commencent à vous contrôler, vous, pour que vous ne dénonciez pas ce qu'ils font de l'autre côté de façon malhonnête, alors il y a un souci d'abord pour nos libertés, d'abord, ensuite pour les gens qu'on va tuer et pour les gens qu'on va terroriser, et sur le plan de la responsabilité et de la gestion saine des affaires publiques. On a supprimé l'ISF en France pour voir maintenant ce que ça donne, c'est-à-dire que les grands vont se soutenir entre eux pour exercer, enfin les grands, les institutions, parce que c'est ça le souci, c'est que les guerres à l'étranger ont un impact sur les institutions nationales qui vont travailler et fonctionner à la force contre les citoyens, c'est un peu vraiment ça, on l'a déjà dit, l'État contre les peuples, les institutions contre les peuples, et ils vont se soutenir entre eux, les riches et les forts se soutiennent entre eux. Finalement, le président qui accorde les avantages aux gens qui payent déjà l'ISF, alors que dans le même temps, il va supprimer les avantages des cheminots, ça marche pas. Enfin, c'est incompréhensible les uns, on a déjà vu qui continuaient à bénéficier des privilèges et les autres qui payent toujours. Ça continue parce qu'on soutient la guerre à l'étranger. C'est paradoxal. Vous êtes là, vous vous dites, oui, la France doit aller en guerre pour nous protéger, pour que le terrorisme ne vienne pas ici. Mais en fait, en faisant ce travail-là, elle vous met, vous, dans une situation où vous êtes totalement contrôlé au nom de cela, et en plus ils décident de ce qu'ils veulent et vous n'avez pas vraiment les moyens pour vous libérer déjà vous-même et libérer la société tout entière. En fait, c'est très simple, les guerres à l'étranger, c'est le creux, je veux dire, c'est la tombe même du développement national et de tout ce qui est croissance et tout ce que vous voulez de la bonne gouvernance locale. Donc, n'attendez rien des politiques tant qu'ils sont en guerre à l'étranger. Donc, ça veut dire quoi? Ben, il faut supprimer l'OTAN.